France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Cette semaine, voici une série d'émissions sur la pensée libérale, ses origines, ses enjeux, ses débats. Ce matin, aux sources du libéralisme, John Locke, mais aussi Adam Smith, Benjamin Constant, John Stuart Mill. Nous ne serons pas exhaustifs, cela va de soi, mais nous allons repérer les penseurs fondateurs des idées libérales. Jusqu'où remonter ? Sans doute jusqu'aux opposants à la monarchie absolue anglaise au XVIIe siècle qu'on appelait les Whigs. John Locke a été leur représentant philosophique. Leurs idées ont accédé au pouvoir avec la révolution dite glorieuse, Glorious Revolution de 1688, et un an plus tard, le Bill of Rights, c'est-à-dire la déclaration des droits des sujets de la couronne britannique. Ce n'était pas une démocratie que voulait la plupart des Whigs, c'était une monarchie parlementaire dans laquelle, Chambre des Lords oblige, le poids du vote n'est pas le même selon qu'on est riche ou pauvre, aristocrate ou non. Égalité des droits civils, oui, mais des droits politiques, non. Et pour assez longtemps d'ailleurs en Grande-Bretagne, le suffrage universel masculin n'y apparaîtra qu'en 1918. Le féminin ne sera gagné tout à fait qu'en 1928. C'est que le problème premier pour un libéral n'est pas que chacun puisse également peser sur la souveraineté politique qui fait les lois. Il est de limiter la souveraineté quel qu'en soit le titulaire, qu'on ne puisse pas légiférer sur ce qu'on veut ni comme on veut, que la loi soit obligée de respecter en quelque sorte au-dessus d'elle des droits individuels premiers qui concernent le corps, les biens et la conscience de chacun. Plus tard, certains libéraux trouveront John Locke insuffisamment ferme, notamment Friedrich Hayek au XXe siècle, dont nous parlerons demain, qui lui reprochera d'avoir trop vite accepté le principe de l'impôt fixé par les législateurs selon la simple règle de la majorité. Mais Locke est bien le point d'où il faut partir ce matin pour comprendre ensuite les évolutions du libéralisme, sa réflexion sur l'économie et son élan nouveau au XIXe siècle. Bonjour Claude Gauthier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon. Vous connaissez très bien la philosophie britannique des 17e, 18e, 19e siècles et ensuite les courants prolongateurs, plus ou moins, aux États-Unis d'Amérique. Les Lumières anglo-écossaises, notamment, sont au cœur de vos travaux, précisés sur notre site. Et je citerai l'un de vos livres qui évoque la notion de société civile qui se construit là, à travers les Lumières anglo-écossaises, aux presses universitaires en 1993. Bonjour Arnaud Skornicki.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et l'auteur notamment de « L'économiste, la cour et la patrie, l'économie politique dans la France des Lumières » paru aux éditions du CNRS. Claude Gauthier, John Locke n'a pas été libéral Whig tout de suite. Il l'est devenu après un vrai tournant au milieu des années 1660 quand il devient le secrétaire de Lord Ashley, comte de Shaftesbury. Là, les choses deviennent claires pour Locke. Claires en quel sens ?
Je pense qu'il faut peut-être recontextualiser un tout petit peu cette partie de sa trajectoire. Il faut se souvenir qu'il y a toute une période qui va précéder la Glorieuse Révolution, qui est une période dite de la Restauration, en laquelle, effectivement, le roi retrouve une autorité et réinstalle, en quelque sorte, une forme qui s'apparente à la monarchie absolue. Cette question ou ce contexte politique va raviver toute une série de débats fort complexes qui portent effectivement, pour rebondir sur un propos que vous avez tenu en introduction, sur la question de la souveraineté, de sa limitation ou de son éventuelle limitation en regard de ce que sont les individus qui composent la société. Et je pense que dans ce contexte-là, qui nous amènerait beaucoup trop loin dans la narration, on peut rendre compte effectivement d'un certain nombre d'inflexions dans la position politique de John Locke, qui reste de toute façon malgré tout très prudent, hein, puisque comme vous le savez, la publication de ces deux textes fondamentaux, ces deux textes politiques fondamentaux que sont le premier et le second traité sur le gouvernement civil, paraîtront de manière anonyme. 1689. Donc il y a effectivement une évolution de sa pensée, hein, une évolution de sa pensée. Cette évolution est pour partie expliquée par le contexte politique qui est relativement important. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement il va élaborer sa pensée politique, en tout cas celle qui nous intéresse et qui peut constituer une source du libéralisme.
Alors ce Lord Ashley, dont il devient le secrétaire en 1666, c'est un personnage important dans le monde des Whigs, qui s'opposent aux Tories, c'est-à-dire qui s'opposent à la monarchie absolue des Stuarts. Il a même fomenté un complot pour faire assassiner le roi. Les Whigs, ce n'est pas qu'un mouvement philosophique, c'est un mouvement d'opposants politiques très concrets.
Oui, oui, c'est même, je dirais presque d'abord un mouvement politique très important qui va configurer à la fois la manière dont vont s'opposer ou se démarquer les différentes tendances politiques et qui va se pérenniser en quelque sorte, puisque l'opposition entre, ou la démarcation entre Whigs et Tories va traverser tout le XVIIIe siècle aussi. Donc on a là effectivement dans cette période des années 60 jusqu'à la Glorieuse Révolution toute une série de transformations tout à fait fondamentales qui participent à la fois de la configuration de la carte politique avec les partis, mais aussi bien évidemment des enjeux beaucoup plus théoriques fondamentaux sur la constitution de l'individu, sur la place de l'individu dans la société et sur son rapport à la souveraineté, c'est-à-dire au roi.
Arnaud Skornicki, juste un propos un peu général sur les enjeux pour les libéraux très tôt, même si le mot libéral apparaîtra plus tard que l'époque des Whigs. Le but n'est pas, pour l'individu dans la société, qu'il ait des droits politiques égaux à son voisin. Ça, c'est la démocratie qui puisse peser sur la souveraineté comme un lord, s'il n'en est pas un, etc. Non, il y a des hiérarchies et les droits politiques ne sont pas les mêmes. En revanche, l'idée, c'est qu'il faut des droits politiques, des droits civils, pardonnez-moi, et ces droits civils doivent être égaux. Est-ce que vous diriez, Arnaud Skornicki, que ça restera l'enjeu fondamental des libéraux, même par rapport à certains démocrates, qui diront plus tard la volonté populaire, souveraine, peut tout ce qu'elle veut. Les libéraux continueront de dire que ce soit un peuple souverain ou une assemblée souveraine, peu importe, il faut limiter ce pouvoir, il y a des droits premiers à ne pas entraver.
Effectivement, le libéralisme n'est pas immédiatement, n'a peut-être jamais été absolument synonyme de démocratie conçue comme, disons, comme souveraineté du peuple, quelle que soit la manière dont on conçoit cette souveraineté. Ça peut être une souveraineté, indirectement exercée par des représentants du peuple, puisque peut-être, en tout cas, notamment chez Locke et certains de ses successeurs qui se sont réclamés du libéralisme, explicitement ou non, il y a d'abord l'idée, effectivement, de la défense, la garantie même des droits imprescriptibles, voire naturels, de l'homme. Il y a une formule de Locke qui a souvent été reprise, y compris jusqu'au 19e, voire 20e siècle. On parlera plus tard, je pense, dans l'émission des libéraux anglais et britanniques du 19e siècle, ce qu'on a appelé parfois le libéralisme manchesterien. Une formule de Locke, si je me souviens bien, je parle sous le contrôle de Claude Gauthier, où il dit, grosso modo, que l'État a été institué, le pouvoir politique a été institué pour protéger ou défendre la liberté, la vie et la propriété. Voilà. Donc c'est ces trois grands principes, ces trois grands droits que doit défendre l'État. Il a été institué pour cela, pas pour en lui-même effectivement exercer une volonté arbitraire, fut-elle du peuple, celle du peuple. Peut-être si je peux faire une petite incise par rapport à l'excellente introduction historique de Claude Gauthier sur Locke. Locke, c'est un grand problème. Il est assez exemplaire de la difficulté à parler de libéralisme. Je ne veux pas détruire l'objet même de cette série d'émissions sur le libéralisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tradition libérale, qu'elle est complètement inventée ou rétrospective. Mais Locke pose de nombreux problèmes. On peut faire une lecture d'un Locke libéral, elle est tout à fait légitime, puisqu'il y a chez lui, bien sûr, de nombreuses idées, de nombreux thèmes que vous avez déjà mentionnés. qui vont effectivement être constituer une tradition libérale qui s'est formée au-delà du XVIIe siècle, au XIXe, puis même dans la période la plus contemporaine. Mais parler de libéralisme comme d'une tradition politique comporte un risque, c'est de mettre de la cohérence et de la continuité entre des auteurs et des idées où il n'y en a pas forcément tant, pas forcément autant. Je sais pas, de John Locke à John Rawls, en passant par John Stuart Mill, Hayek et quelques autres. Et ça risque parfois d'occulter peut-être certains aspects de la pensée d'un auteur rapporté précisément au contexte qu'évoquait Claude Gauthier. Et si je peux juste finir là-dessus, notamment le second traité du gouvernement civil qui est paru en 1690, je crois, c'est-à-dire juste après la Glorieuse Révolution, a semble-t-il été écrit avant, dans un contexte un petit peu différent. Oui. Et on peut en faire une lecture peut-être un peu moins libéral et peut-être plus démocratique et révolutionnaire. Locke n'est pas simplement ce libéral bontain un peu bourgeois, défenseur de la liberté et surtout de la propriété privée, mais aussi de la limitation du pouvoir politique. Tout le dernier chapitre intitulé
la dissolution du gouvernement
en fait une justification, la dissolution du gouvernement en effet, une justification du droit de résistance à la tyrannie, ce qui en fait est un appel à la révolution, à la prise d'armes. C'est pas simplement une expression d'une opposition politique. C'est un aspect révolutionnaire. Il y a d'autres aspects moins sympathiques. Je sais pas si c'est sympathique d'être révolutionnaire. À mes yeux, peut-être. Il y a d'autres aspects moins sympathiques aussi, et peut-être aussi moins libéraux de Locke, son rapport à l'esclavage. Il y a aussi une justification de l'esclavage, ou son rapport
À
la colonisation. Oui.
Alors, en effet, je tiens à dire que cette série sur le libéralisme, un des enjeux pour nous est aussi de montrer que cette tradition, si elle existe de manière à peu près unifiée, en tout cas est traversée par plein de débats. Et j'ai annoncé d'emblée que Locke était aujourd'hui contesté par certains. Il est indéniable qu'il a aussi marqué la pensée républicaine ultérieure, notamment aux États-Unis. Donc c'est difficile de le ranger dans une seule chose. Néanmoins, les Whigs, pour la plupart d'entre eux, Claude Gauthier voulait une assemblée, des chambres qui est l'essentiel de la souveraineté, qui fasse les lois, mais en mettant des droits individuels au-dessus d'elle, en quelque sorte. Alors au-dessus, c'est difficile, parce qu'en fait, elle les déclare, elle se contente de les déclarer. Et donc, qu'ils sachent s'auto-limiter, tout en contrôlant fermement la couronne, l'exécutif. Donc c'est une pensée de la limite.
Alors ça, c'est vraiment une question tout à fait fondamentale. Effectivement, on peut, je crois, nuancer sur un certain nombre d'aspects de sa pensée, mais cette question de la limitation, elle est, je pense, quand même, malgré tout, aussi une caractéristique de ce qu'on pourrait appeler une lecture libérale, au sens où la fonction politique et la fonction théorique de cette fameuse problématique de l'état de nature et de l'état de société vise précisément à fonder en raison la toujours limitation nécessaire de l'État. C'est-à-dire que la manière de décrire ce qu'est l'individu dans un état de nature, c'est pour mieux montrer que l'état de société intervient toujours comme une limitation. La constitution du pouvoir politique est toujours quelque chose qui vient limiter. Autrement dit, l'argument libéral qui consiste à dire il y a trop d'État est un argument tout à fait discutable, parce que précisément, l'État se construit comme une limite.
Oui.
Et donc, il est toujours déjà en excès par rapport à une lecture libérale de ce que sont les droits de propriété, les droits de possession, la capacité à ordonner sa propre action, puisque ce qui est quand même intéressant dans l'état de nature, c'est qu'on a affaire à une naturalisation de l'individu, de la figure de l'individu, et qui jouit en quelque sorte d'une liberté parfaite.
Donc peu importe s'il vote avec un poids plus ou moins important, ou s'il ne vote, c'est pas la question première. C'est ça que je voulais souligner, parce que parfois on dit, d'ailleurs vous savez bien qu'on dit souvent cette expression, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, première démocratie du monde, c'est impropre comme terme. Premier état de droit, ça oui. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait du non-délibérable, pourrait-on dire les choses comme ça. Il y a des droits premiers qui ne sont pas délibérables. La loi doit s'adapter, ne doit jamais les remettre en question.
Autre manière de poser la question de la limite. Précisément parce que la configuration de l'individu dans l'état de nature pose le principe même de ses droits et libertés fondamentaux, et que la constitution du pouvoir politique, quelle qu'en soit la forme, effectivement, vient toujours limitée. Alors cette limitation, elle a une vertu positive, elle a une vertu, c'est qu'elle permet aux hommes de ne pas s'entre-détruire, mais jusqu'où doit-elle se constituer ? Ça, c'est la question générale et c'est la question propre à toute l'histoire du libéralisme. Et d'une certaine manière, la remarque et le reproche que fera Hayek à Locke, oui, c'est une certaine lecture de cette limite.
Alors justement, je voulais qu'on aille dedans, même si c'est demain que nous parlerons dans le détail de Friedrich Hayek. Au paragraphe 123 du second traité du gouvernement civil, dans le chapitre 9, John Locke définit ce qu'il appelle les « properties », les propriétés. Alors c'est pas seulement la propriété en termes de biens. Il y a les biens, mais il y a la vie, et d'ailleurs l'habeas corpus.
Le propre.
On traduit d'ailleurs comme ça, le propre de l'individu, il y a la vie même, le corps, mais aussi la liberté de conscience, qu'il pense comme une propriété qui exige d'ailleurs un certain espace, elle doit pouvoir s'exprimer, etc. C'est évidemment, alors j'ai l'impression que sur la vie et la liberté de conscience, les libéraux sont en général d'accord. Sur le rapport aux biens privés, ils peuvent varier. C'est vrai que Hayek en aura une acception tellement ferme que l'impôt n'est pas possible. On peut pas délibérer sur l'impôt. Les gens doivent être maîtres de ce qu'ils possèdent en termes de biens. Et Locke, sur ce point, est beaucoup plus souple. Il pense que l'Assemblée législative peut parfaitement créer par la loi de l'impôt, et même à la majorité. C'est un scandale pour Hayek. C'est intéressant parce que Locke, comme vous l'avez dit à Arnaud Skornicki, a posteriori, est presque un social-démocrate.
Oui, il y a peut-être eu des lectures de Locke quasi social-démocrate. Bon, je ne me prononce pas là-dessus et peut-être sur la question de l'impôt, je laisserai davantage Claude Gauthier répondre parce que je ne suis pas vraiment expert, on pourrait dire, disons. De toute façon, c'est une question qui embarrasse tous les libéraux, je mets des guillemets prudents, disons, y compris au XVIIIe siècle, par exemple, sans dire trop dévier du sujet, l'école physiocratique, qui est peut-être la première grande école d'économie politique à prétention scientifique en France au siècle des Lumières, a toute une théorie de l'impôt, essaie de justifier l'impôt, alors qu'ils ont une conception a priori très absolutisée de la propriété privée, précisément. Un peu inspiré d'ailleurs de Locke, j'y reviendrai. Enfin, je vais revenir sur la conception lockéenne de la propriété. Et ça ne nous empêche pas quand même de justifier la propriété comme une concession nécessaire des propriétaires pour protéger la propriété. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut bien
l'impôt, vous voulez dire.
L'impôt est une concession que les propriétaires doivent faire pour effectivement, il faut financer l'État. Il faut bien financer l'État. Et là, l'État est institué aussi pour protéger la propriété privée. Dans tous ces aspects, je reviens peut-être à Locke et à sa conception de la propriété privée, qu'on peut décliner peut-être en trois moments. Il y a effectivement la propriété de soi, de son propre corps. Et ça, effectivement, ça renvoie à ce que vous aviez nommé, vous aviez rappelé, Géraldine, l'habeas corpus. Qui est censé, disons, protéger un minimum de droits, notamment protéger les individus, les citoyens contre la détention arbitraire, par exemple, tout simplement. Donc ça implique cela, la propriété de soi, de son propre corps, propriété de ses actions, c'est-à-dire le fait de travailler, de transformer la nature, et propriété du produit, du fruit de ses actions, le fait d'avoir labouré la terre, de l'avoir chassé, d'avoir cueilli, voilà.
On peut jouir de ses fruits.
On peut jouir des fruits de son travail, et notamment du travail agricole qui, bien sûr, renvoie à la dimension foncière, terrienne de la société dans laquelle vit Locke à la fin du XVIIe siècle, comme la plupart d'ailleurs des sociétés européennes. Et c'est comme ça, en fait, il faut repenser la propriété, ou les propriétés, vous avez employé le pluriel, précisément dans ce continuum, sinon on ne comprend pas complètement, effectivement, la justification de la propriété privée chez Locke.
Bon, voilà. Alors on va revenir sur l'impôt, où Locke était assez souple sur ce point, par rapport à d'autres libéraux qui le suivront. Il y a aussi un autre sujet qui gêne certains libéraux, c'est qu'il met dans la propriété de l'individu, sa force de travail. On ne peut pas la maltraiter, on ne peut pas faire travailler quelqu'un n'importe comment, notamment pas sans salaire, ce qui revient quand même à dire que un consentement, qui est une notion très importante pour les libéraux, si quelqu'un consentait à travailler pour vous gratuitement, par la loi, ça dérange Locke, il faudrait quand même, le salaire est une notion très importante. ça fait une autre pomme de discorde, Claude Gauthier, avec certains libéraux ultérieurs qui ont tendance à dire les gens font ce qu'ils veulent. Ils travaillent pour rien s'ils ne veulent pas toucher de salaire. Locke et certains ont même osé dire c'est un des fondements du socialisme. Alors, faut peut-être pas exagérer, mais c'est une théorie du salariat là qui s'ébauche.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a là un des nœuds de l'anthropologie politique de John Locke, qui consiste à définir l'individu par ses propres, ce qui le constitue substantiellement comme un individu autonome. Et le travail qui est considéré comme une activité de transformation du rapport de l'homme à la nature, eh bien... pour qu'il devienne effectivement propriété de l'homme, implique un type de rapport. Et ne pas rémunérer le travail, c'est ne pas reconnaître à la fois l'activité en tant que telle, mais ne pas reconnaître non plus que ce travail, eh bien, il est constitutif de la personne. Et je pense que de ce point de vue-là, effectivement, la position de Locke est une position beaucoup plus complexe et beaucoup moins réduite que ne l'a fait la tradition libérale ou les lectures que ne l'ont fait les lectures libérales postérieures. Donc je pense que, et ça fait partie de tout un ensemble d'indices dans le texte, vous parliez tout à l'heure du droit de résistance, si on met bout à bout tous ces éléments, on construit une figure lockienne qui est sans doute beaucoup moins réductible que l'image qu'on en fait habituellement pour la poser comme une source, justement, du libéralisme.
Alors, le droit de résistance, disons, il faut en dire un mot. C'est le dernier chapitre du second traité du gouvernement civil. L'idée, c'est qu'il faudrait construire un système politique où l'individu ait beaucoup de recours, si jamais le pouvoir politique, l'État, venait à enfreindre les droits qu'il est supposé respecter. Mais si les recours ne marchent plus, si rien ne marche plus dans cet État artificiel qu'on a créé en sortant de l'État de nature, c'est un artifice aussi, hein, même si c'est un prolongement, comme pour Hobbes, à ce moment-là, on est légitime, n'importe qui est légitime, solitaire ou en groupe, à refuser l'État, à se mettre en résistance.
Oui, alors là, c'est une question très complexe, parce qu'il faut distinguer deux niveaux d'analyse. Il faut d'abord distinguer l'analyse du principe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la construction du régime politique se fait sur la base d'un contrat, qui dit contrat dit engagement sur un certain nombre de points précis. Et la question de la résistance légitime, elle intervient à un moment où précisément les termes de ce contrat ne sont plus respectés. Alors là, il y a toute une série de débats extrêmement complexes autour de cette question.
Oui,
peut-on résister ? La question de l'obéissance, oui. La question de la désobéissance. On laisse ça de côté. Mais ce qui est sûr, c'est que là, sur ce plan, encore une fois, Locke apparaît comme beaucoup plus ouvert du point de vue de sa conception politique, puisqu'il admet la possibilité de la résistance. Et effectivement, ce dernier chapitre du second traité vient un peu couronner cette lecture. Et cette possibilité de résistance, elle ne dit pas pour autant que la résistance effective puisse advenir. Donc effectivement, vous avez cette fameuse invocation de Dieu, hein, qui est une sorte de formule extrêmement saisissante. Hein. L'individu peut en appeler à Dieu et se mettre en résistance.
Alors, je suis contente que vous le disiez, parce qu'en même temps, il y a aussi des passages dans ce chapitre 19 où il dit ce serait mieux si c'était tout le peuple, une partie conséquente du peuple, the body of the people, il dit au paragraphe 242. Mais si c'est un individu seul, il n'a pas non plus de critères clairs pour réfuter la légitimité de la résistance. Au fond, toute forme de résistance, quand elle advient, signifie la faillite du système et finalement légitime presque de fait les résistants, quels qu'ils soient.
Oui, alors vous avez tout à fait raison. Ici, il faudrait rentrer dans l'analyse des rapports entre l'acte ou la conduite de l'individu et puis l'efficacité d'une résistance qui serait portée par the body of people, c'est-à-dire le corps politique, le corps de la société. Puisque là, dans cette question de la résistance, effectivement, il faut distinguer ce qui relève du corps politique et ce qui relève de la société. Et toute la question, et je pense que Locke est très lucide sur ce point, c'est qu'est-ce qui peut amener l'ensemble des individus à entrer en résistance. C'est pas une question évidente. Et je crois qu'il n'y a pas de théorie possible de cette question. Il y a des faits de résistance, il y a des cas, il y a des épisodes dans l'histoire politique de la société civile anglaise, mais il n'y a pas de théorisation vraiment possible.
Alors, c'est évidemment, nous n'avons pas fait le tour de Locke, et puis je vous remercie d'avoir montré à quel point il y a un dialogue intérieur. Rien n'est ficelé, hein, parfaitement chez ces penseurs-là à la source du libéralisme, et certainement pas chez Locke, où plein de débats sont générés par son travail. Il y a néanmoins cette idée globale qui émerge et qui va habiter tout le XVIIIe siècle, cette idée qu'une société civile, pour reprendre un mot que vous avez tellement travaillé, Claude Gauthier, existe face à l'État, qu'elle doit faire valoir ses droits contre l'État, qu'elle doit obliger l'État à se limiter dans l'extension de son pouvoir, et qu'elle doit aussi avoir une vie publique, précisément pour bien limiter... L'État, il n'y a pas que les activités économiques librement faites, il y a aussi une vie publique, politique à avoir, précisément pour être une limite efficace face à l'État, Arnaud Skornicki.
Oui, effectivement. Alors bon, sur la société civile, à nouveau, je m'en remettrai à Claude Gauthier, qui est le grand expert de ce concept, de cette question, qui est effectivement un concept qui apparaît notamment en Écosse, hein, dans les Lumières écossaises, Scottish Enlightenment. Et cette société civile, oui, vous avez très bien dit, rassemble des dimensions à la fois économiques et, j'allais dire, civiques. Cette société civile, par exemple, si j'anticipe un peu sur Adam Smith, dont on va parler, je crois, tout à l'heure, c'est le produit, hein, si on suit les analyses de Smith et d'autres philosophes, notamment écossais, mais pas uniquement, c'est le produit d'un développement de l'histoire, en fait, hein, c'est-à-dire... comment dire, une division du travail, un degré développé, de développement d'une société parvenu à un haut degré de division du travail social et du travail économique, au point, effectivement, de donner à la société, terme plus générique, mais qui effectivement se consolide conceptuellement au XVIIIe siècle, une forme d'autonomie par rapport, notamment au pouvoir politique, au souverain, de donner à la société, disons qu'on commence à considérer la société comme étant réglée par des lois ou des mécanismes objectifs relativement indépendants de la volonté du souverain et voire de la volonté de Dieu lui-même. Dieu peut tout, certes, mais il laisse tranquille, il laisse faire les lois de la société qu'il aurait lui-même établi. Et c'est un des rôles des sciences sociales ou de la théorie sociale naissante, et notamment de l'économie politique, de dégager ces lois, notamment économiques, de la société. Mais effectivement... cela passe aussi par un certain degré de liberté économique, mais aussi par un certain degré finalement de liberté. Vous avez parlé de vie publique, je crois, de liberté d'expression, et notamment qui passe notamment par la liberté de presse et la possibilité de constituer ce qu'on on a appelé plus tard l'espace public, ou ce qu'on appelait au XVIIIe siècle l'opinion publique, relativement autonome, elle aussi effectivement du souverain. Et peut-être aussi de l'Église.
Le surveiller un peu, lui.
Et effectivement, c'est aussi publiquement, une puissance de résistance objective à l'action du souverain, qui ne peut pas, finalement, même s'il le voulait, faire ce qu'il entend.
Alors évidemment, Claude Gauthier, là, on va parler d'Adam Smith, qui vient d'être nommé. Vous connaissez magnifiquement les Lumières écossaises. Vous allez nous en parler. Adam Smith, qui, dans la théorie des sentiments moraux, dont la première édition date de 1759, dépeint un individu qui n'est pas aussi égoïste que souvent on le croit dans la tradition libérale. Et là, j'aimerais que vous nous éclairiez. Il y a peut-être des penseurs de l'égoïsme individuel légitime, mais il y a aussi, comme Smith, des penseurs qui cherchent des phénomènes d'empathie, de partage au sein de la société civile. Écoutez cet extrait de la théorie des sentiments moraux.
Aussi égoïste que l'homme puisse être supposé, il y a évidemment certains principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoiqu'il n'en retire rien d'autre que le plaisir de les voir heureux. De cette sorte est la pitié ou la compassion, c'est-à-dire l'émotion que nous sentons pour la misère des autres, que nous la voyons ou que nous soyons amenés à la concevoir avec beaucoup de vivacité. Que souvent notre chagrin provienne du chagrin des autres est un fait trop manifeste pour exiger des exemples afin de le prouver. En effet, ce sentiment, comme toutes les autres passions originelles de la nature humaine, n'est pas seulement éprouvé par les hommes vertueux et doués d'humanité, quoique peut-être ce dernier puisse le sentir avec la plus exquise sensibilité. Le brigand le plus brutal, le plus endurci de ceux qui violent les lois de la société, n'en est pas totalement dépourvu.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Je vous écoute, Claude Gauthier. Un commentaire, s'il vous plaît, de cet extrait d'Adam Smith.
En fait, ce que je trouve d'intéressant dans ce texte, c'est qu'il vient brouiller précisément la conception un peu rétrospective que l'on se fait à propos de ces auteurs du XVIIIe siècle sur la manière de penser l'individu. Ce qui apparaît très clairement, et c'est une tension tout à fait intéressante, entre le Adam Smith de la théorie des sentiments moraux et le Adam Smith de la richesse des nations.
Ultérieur, n'est-ce pas ?
Qui est ultérieur, puisque la première édition paraît en 1776. C'est un individu qui est à la fois porté par son intérêt, mais qui est aussi très, très nettement porté par le souci qu'il a d'autrui. On a affaire ici à une anthropologie qui marque, qui va contre la représentation de l'individu comme monade esselée, comme monade sans porte ni fenêtre, hein, comme on a parfois pu un peu caractériser l'individualisme libéral. On a affaire ici à un individu dont la relation à autre, à l'autrui, est absolument fondamentale.
Est-ce une réponse, à ce moment-là, l'itinéraire d'Adam Smith, à Bernard Mandeville, qui n'est pas français, en dépit du nom, néerlandais, puis devenu britannique, qui est de la génération juste au-dessus, et qui a écrit la fable des abeilles, donc à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle, où il valorise même les vices individuels, les crasses faites aux autres, pour le dire prosaïquement, comme produisant malgré tout de l'harmonie.
Alors, je crois qu'effectivement, on peut comprendre cette manière de dessiner les contours de l'individu comme une certaine réponse à Mandeville. Mandeville est d'ailleurs un interlocuteur tout au long de la théorie des sentiments moraux. Il revient sur la morale de l'égoïsme. Donc, d'une certaine façon, oui, c'est une réponse. Je pense quand même que, malgré tout, ce qui est intéressant ici, dans cette manière de caractériser l'individu, c'est la possibilité d'une analyse morale de la conduite individuelle. On a souvent pensé, et c'est notamment des hypothèses très classiques, hein, que le libéralisme émergeait en quelque sorte d'une séparation entre la sphère de l'éthique, la sphère de la morale et la sphère politique et économique. Hein, c'est la grande hypothèse de Louis Dumont dans Homo Equalis. Eh bien, je pense que ce genre de texte montre au contraire que c'est plus compliqué et que même pour quelqu'un qui va valoriser la conduite économique,
la main
qui va valoriser voilà, une représentation de l'équilibre de la société civile indépendamment du pouvoir politique, par la main invisible, eh bien, on a affaire à quelqu'un qui nous dit, ben voilà, l'être humain, il a besoin de l'autre et il a besoin de quelqu'un qui soit heureux.
Et il ne régresse pas ensuite vers des thèses plus proches de celles de Mandeville, puisque vous avez suggéré qu'il y a un moment là, en 1759, peut-être va-t-il encore évoluer, Adam Smith. L'idée de la main invisible revient-elle à des considérations comme celle de Mandeville, quoi qu'il arrive de nos égoïsmes, quelque chose de bon traverse le marché, voilà, le marché.
Alors, je pense que vous avez raison en partie, parce qu'effectivement, c'est une manière de justifier le fait que l'égoïsme, malgré tout, est producteur d'un effet positif. Que les riches aillent en fonction de leur rapacité, etc., n'empêche pas que finalement les plus pauvres puissent en profiter par un effet heureux qu'on peut appeler la main invisible ou d'une toute autre manière. Mais il me semble quand même que le propos est plus complexe et que c'est vrai qu'il y a une tension qui traverse toute l'œuvre de Smith à ce niveau-là. Juste pour donner un élément, c'est quand même intéressant de constater que dans le livre 5 de La richesse des nations, Smith s'intéresse notamment aux fonctions culturelles et à la fonction d'éducation de l'État. C'est-à-dire, il s'agit pas simplement de dire laisser faire, laisser aller, il s'agit de montrer que l'État a une fonction importante en matière d'éducation pour les plus pauvres. Donc, oui. On n'est pas tout à fait dans l'image, l'image hayekienne, finalement, d'un État qui serait simplement limité à ses fonctions régaliennes.
Alors, le rapport au marché et à sa liberté est une question qui va notamment vraiment occuper beaucoup, d'une manière singulière, les libéraux, si vous me permettez de les appeler comme tels, de la première moitié du 19e siècle. Notamment, une des choses qu'avait anticipé Adam Smith, c'est-à-dire l'idée que l'isolationnisme, le protectionnisme entre les nations est une mauvaise chose. Il a anticipé ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs, qui sera ensuite précisée par Ricardo. Tout cela va énormément compter et aboutir notamment à l'abolition des corn laws, des lois sur les céréales, en 1846. Autrement dit, le libéralisme va devenir vraiment anti-protectionniste. Ce sont des questions très actuelles, comme nous le savons tous. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qui se passe exactement. J'ai employé plusieurs expressions. Il faudrait décortiquer un peu. Arnaud Skornicki.
Alors, je crois qu'on peut enlever les guillemets à libéral cette fois-ci, parce que le terme, c'est, oui. Voire libéralisme, parce que ces deux termes commencent à s'imposer effectivement au 19e siècle en Europe, dans la langue anglaise, mais aussi en français, dans la langue française, voire en espagnol. Bon. Donc voilà, ça commence effectivement là à se constituer comme tel, en tout cas les labels même de libéral ou libéralisme. Et effectivement, vous avez cité David Ricardo. David Ricardo, qui est le grand économiste britannique du début du XIXe siècle, qui n'est pas un pur idéologue libéral, quoi, qui Marx considérait comme un économiste très scientifique, a publié, je ne sais plus en quelle année exactement, début XIXe siècle.
On vous le pardonne.
Les principes de l'économie politique et de l'impôt. Qui a en fait inspiré ensuite la génération de libéraux après lui, et en particulier une certaine association, une certaine ligue, l'Anti-Corn Law League, donc la ligue contre la loi sur les céréales, qui effectivement luttait pour l'abolition des lois protectionnistes des lois qui limitaient l'importation du blé étrangers, notamment une loi de 1815 qui a instauré une échelle mobile selon laquelle, effectivement, en dessous d'un certain seuil, le cours du blé, on suspendait l'importation des blés étrangers. Cette politique protectionniste favorisait clairement un groupe social en particulier, c'est les propriétaires terriens. Alors, il y avait aussi un autre argument, c'était de garantir un minimum de souveraineté alimentaire pour
ça, c'est bizarre. Déjà, on se posait ce genre de questions.
C'était peut-être pas l'expression à l'époque, mais on pourrait le qualifier comme ça de souveraineté alimentaire. Par contre, d'autres groupes sociaux étaient effectivement lésés, les industriels et aussi probablement les travailleurs qui souffraient d'un haut prix du blé et donc aussi des denrées de alimentaires, de subsistance, de première nécessité. Et l'Anti-Corn Law League, l'ACLL, qui a été largement fondée en fait par des industriels libéraux, mais qui étaient aussi des journalistes, des hommes politiques, et tout ça, parfois tout ça à la fois, oui. Notamment John Bright, ou encore, peut-être, c'est le plus important à retenir, c'est Richard Cobden, qui est vraiment typiquement le self-made man, hein, c'est le cas un peu type exemplaire paradigmatique de l'individu libéral qui, croit-il en tout cas, s'est hissé par ses propres talents effectivement au sommet. Il a fondé le Manchester Times, et avec l'ICL, et c'est presque co-religionnaire, je vais expliquer pourquoi je dis ça, de la Ligue, ils ont mené en fait une campagne très moderne, avec des meetings, des tracts, des campagnes de presse aussi, en faveur du libre-échange et de l'abolition de ces corn laws, donc dans le secteur clé des céréales. Et en plus, ils vont effectivement réussir leur coup, parce que si je me souviens bien, c'est en 1846 que effectivement les corn laws vont être abolis. Dans des circonstances que je vous passe, ça va même faire exploser le parti conservateur, le parti Tory, qui va se scinder en deux. Et pour simplement conclure là-dessus en deux mots, on peut dire que ce libéralisme qu'on a parfois qualifié de manchestérien, parce que c'est effectivement, la plupart venaient de Manchester, ce libéralisme manchestérien est assez typique d'un durcissement du libéralisme, et peut-être assez typique d'un libéralisme particulièrement dogmatique, fanatique. Marx les appelait admirativement et ironiquement tout à la fois une armée de missionnaires, hein, c'était un peu des évangélistes du marché et du libre-échange, en durcissant même la théorie de Ricardo, hein, et en faisant plus un motif idéologique que véritablement scientifique, et avec une efficacité politique tout à fait remarquable. Ils ont agité, hein, l'opinion publique, qui n'était pas encore une opinion publique démocratique, hein, mais en tout cas avec réussite.
Mais on sent bien en même temps que ce débat ne s'est jamais complètement terminé. Aujourd'hui, des libéraux, des gens qui croient au marché, comme Trump, au hasard, reviennent avec une conscience protectionniste très forte, qui est pourtant contraire à tout cet esprit manchestérien du libéralisme au XIXe siècle. C'est peut-être qu'il va se planter. Et dans ce cas-là, évidemment, les autres... Se planter, je parle du point de vue de ses critères à lui. C'est-à-dire que il y aura beaucoup d'inflation et des problèmes économiques à l'intérieur des États-Unis. Que nous, on ait des problèmes, ça, c'est pas son souci à lui. Mais peut-être qu'il va se tromper du point de vue même des buts. Peut-être non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, du débat interne au libéralisme, Claude Gauthier? Encore une fois, qu'ils sont pas d'accord sur tout entre eux. Ou alors que Trump n'est pas du tout un libéral, quoi qu'il en dise.
Ça, c'est peut-être une question à poser, effectivement. C'est peut-être un peu tôt pour y répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à notre sujet, cela montre qu'il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas d'uniformité des positions à l'intérieur même de ce qu'on pourrait appeler l'espace libéral. Moi, je trouve que tout ceci montre une fois de plus, et je reviens encore sur un point que vous avez évoqué dans votre introduction, qui me paraît tout à fait fondamental, c'est la question de la limite. C'est la question de la limite, et on voit bien ici que c'est pas simplement la question de la limite de la souveraineté, enfin c'est aussi la question de la limite de la souveraineté, mais dans une société où progressivement l'espace de la société civile se dissocie, s'autonomise entre guillemets de l'espace politique, évidemment les questions économiques deviennent aussi des questions où l'enjeu en quelque sorte de la souveraineté. C'est pas simplement la question de l'impôt, c'est la question des droits de douane, c'est la question des taxes, etc., etc. Participe aussi de cette difficile coexistence politique. Donc je pense qu'il faut effectivement resituer les débats dont Arnaud Skornicki vient de parler dans cette perspective-là. Au fond, la question des droits, c'est aussi la question de la limite ou de l'expression d'une certaine limite de la souveraineté à l'égard de ce que peuvent faire les membres de la société civile, qu'ils soient industriels, qu'ils soient salariés, qu'ils soient etc.
Alors je vous propose de finir notre échange sur un texte très connu, celui qui est le discours de Benjamin Constant, alors qu'il était député de la Seine en 1819. Non, pas encore, il était encore député de la Sarthe. Enfin, il deviendra député de plusieurs circonscriptions. Et c'est un texte très connu parce que il suggère que la modernité est condamnée à être libérale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme les anciens et participer à la chose publique sur l'agora, puis voter sur la pnyx comme les Grecs athéniens anciens. Nous avons besoin d'un espace privé, de le faire respecter, d'y avoir des activités qui nous donnent du plaisir. Et en même temps, il ne faut pas simplifier Constant. Tout ça, vous allez nous l'expliquer. Voici un extrait du discours de la liberté des anciens comparé à celle des modernes de 1819, Benjamin Constant.
Nous ne pouvons plus jouir de la liberté des anciens qui se composait de la participation active et constante au pouvoir collectif. Notre liberté à nous doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance privée. La part que dans l'Antiquité chacun prenait à la souveraineté nationale n'était point, comme de nos jours, une supposition abstraite. La volonté de chacun avait une influence réelle. L'exercice de cette volonté était un plaisir vif et répété. En conséquence, les anciens étaient disposés à faire beaucoup de sacrifices pour la conservation de leurs droits politiques et de leur part dans l'administration de l'État. Chacun, sentant avec orgueil tout ce que valait son suffrage, trouvait dans cette conscience de son importance personnelle un ample dédommagement. Ce dédommagement n'existe plus aujourd'hui pour nous. Perdu dans la multitude, l'individu n'aperçoit presque jamais l'influence qu'il exerce. Jamais sa volonté ne s'emprunt sur l'ensemble, rien ne constate à ses propres yeux sa coopération. L'exercice des droits publics ne nous offre donc plus qu'une partie des jouissances que les anciens y trouvaient. Et en même temps, les progrès de la civilisation, la tendance commerciale de l'époque, la communication des peuples entre eux, ont multiplié et varié à l'infini les moyens de bonheur particuliers. Il s'ensuit que nous devons être bien plus attachés que les anciens à notre indépendance individuelle. Car les anciens, lorsqu'ils sacrifiaient cette indépendance aux droits politiques, sacrifiaient moins pour obtenir plus. Tandis qu'en faisant le même sacrifice, nous donnerions plus pour obtenir moins. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. Et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances.
Ce qui évidemment est intéressant dans ce texte de Benjamin Constant, c'est qu'il assume. Il assume de dire que les modernes sont attachés à l'indépendance individuelle bien plus que les anciens, que la sécurité dans les jouissances privées, je cite, est fondamentale, Arnaud Skornicki. Ça veut dire que la vie politique doit ménager du temps et de l'énergie pour chacun d'entre nous, pour notre espace privé, voire permettre à des individus de ne jamais s'intéresser à la politique. Et en même temps, je sais bien que tout ça est plus complexe chez Constant, mais je vous écoute, on va y aller en deux temps.
C'est un texte qui a une double dimension, à la fois un peu prescriptive ou normative, hein, ça dit un peu ce que doit être la liberté des modernes, et en même temps, c'est un texte qui pose un diagnostic presque sociologique sur la réalité en fait de la liberté des modernes, qui résulte d'un changement en fait, disons du lien, de la nature même du lien social par rapport effectivement aux anciens, hein, c'est-à-dire ils pensent surtout en fait aux Grecs, hein, aux républiques de l'Antiquité grecque, Athènes et Sparte, disons. Et ça ça s'accompagne en fait d'une tentative de. Parce que dans le libéralisme, il y a liberté. Enfin, en tout cas, ça renvoie à la liberté. Et ça accompagne d'une tentative de définir la liberté libérale. Et en ce sens, ce texte très célèbre de Benjamin Constant a joué un rôle important, je pense, dans la constitution même d'une tradition libérale. Car oui. Je trouve qu'avec un talent remarquable, d'ailleurs, hein, il renoue plusieurs fils, à la fois les dimensions économiques et politiques, disons, du libéralisme tel qu'il s'est formé à partir effectivement de John Locke, fin 17e siècle, et au cours du siècle des Lumières. En particulier, il fait le lien, je trouve très bien, entre la naissance de ce qu'on a pu appeler la société civile ou la société marchande, d'un côté, et celle du gouvernement représentatif qui, disons, s'est imposé avec les grands mouvements révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, en particulier les révolutions françaises et américaines, et on pourrait ajouter aussi la révolution haïtienne, même si je ne crois pas qu'il en parle. L'idée générale, c'est que contrairement aux Grecs, aux Athéniens ou aux Spartiates, les citoyens d'aujourd'hui sont en fait désormais bien trop occupés à vaquer à leurs activités privées, qu'elles soient, que ce soit dans leur vie privée au sens très restreint du terme, je parle des choix amoureux par exemple, hein, mais ou au sens professionnel aussi, hein, voilà, le travail, hein, le travail des différents citoyens. Puisque nos sociétés sont devenues, au fond, comme disait Sieyès, de grands ateliers, hein, dans lesquels, en fait, nous ne sommes plus du tout disposés comme avant, comme les Grecs, à s'occuper de politique sur l'agora ou dans l'ecclésia auquel vous faisiez allusion.
Ce qui peut laisser penser que ce qui va faire une apologie même de la pure et simple indifférence politique. Or, précisément, à la toute fin de ce discours célèbre, il dit, mais attention, il y a quand même des dangers, ils sont différents de ceux qui menacent la liberté des anciens, mais ils existent, et précisément, trop d'indifférence à la chose publique peut mener au pire.
Oui, effectivement, dans une pirouette finale, une péroraison dont il a le secret, parce que c'est un discours aussi, après avoir, non pas d'ailleurs discrédité la liberté des anciens, qu'il trouve remarquable, simplement inadapté à nos sociétés modernes, inadapté à l'individualisme, terme qu'il a par ailleurs inventé, même si je ne crois pas qu'on le retrouve dans ce texte, mais c'est un néologisme qui est une invention de Constant.
Il évoque le problème de l'esprit public.
Oui, effectivement, le danger, il pointe lui-même le danger effectivement de cet individualisme, c'est-à-dire le désengagement des citoyens par rapport à la chose publique qui, au fond, se contenterait simplement simplement d'élire une fois tous les 5 ans, par exemple, un corps de représentants, même pas au suffrage universel chez Constant, hein, qui n'est pas un démocrate de ce point de vue, même s'il approuve le principe du gouvernement représentatif et le principe de l'élection, un désengagement qui pourrait nous préparer, en fait, de manière presque silencieuse et doucereuse à un despotisme oui. plus ou moins doux.
Et, la lassitude voilà. politique peut mener au pire. Finalement, ce sera, hélas, je pense, le dernier mot. Je vous le laisse, Claude Gauthier. On retrouve là les problèmes déjà présents chez Locke et chez beaucoup de libéraux anglais. Oui, on a le droit de faire valoir nos intérêts privés, que le politique nous fiche la paix, si je puis le dire comme cela. Mais attention, les libéraux veulent aussi qu'on surveille le pouvoir. Et surveiller le pouvoir, ça demande un peu d'énergie, un peu de vie civique et publique.
Alors je dirais simplement, parce que là on n'a pas beaucoup de temps pour développer, mais que ce texte est remarquable de la justification d'une conception libérale de la représentation qui reste malgré tout aristocratique. Donc la question de l'articulation entre la démocratie et le régime politique et la conception libérale de la société, elle se trouve ici remarquablement posée, au-delà de la distinction et de la comparaison des libertés des anciens et des modernes, par la médiation aristocratique de la représentation. Et de ce point de vue, il me semble que Benjamin Constant rejoint tout à fait le propos de Sieyès, qui pensait qu'il y avait une division sociale du travail, que la politique était une activité parmi d'autres.
Donc vous pensez aussi qu'il y a derrière le fait d'assumer une jouissance privée indépendante qui fait partie de notre liberté moderne, un appel à un autre grand thème libéral qui est attention, continuons de surveiller les gouvernants. Et ça, c'est de la vie civique.
Oui, tout à fait.
Par la presse notamment, qui soucie
je crois que ce qui est intéressant, et c'est ce que reflétait aussi les tensions propres à la problématique de Smith, c'est l'idée qu'au fond, avec la modernité, les rapports entre le politique et la société civile deviennent problématiques. Et que ici, cette tension ou ce risque de se faire confisquer en quelque sorte la possibilité de participer au travail politique de la société sur elle-même fait partie de ces risques et pose effectivement le caractère problématique de la distinction, sinon de la séparation entre l'espace politique et l'espace social.
toujours plus près de la liberté, Close to Free, c'est une chanson de 1993 interprétée par The Bodeans, groupe de rock américain formé en 1983. Merci beaucoup Arnaud Skornicki et Claude Gauthier. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, Frédéric Worms s'intéresse à la précision. Vous verrez, ce matin, il se demande comment la définir, cette précision. Voici le pourquoi du comment.
Comment définir la précision ? S'il y a une notion qu'il faille définir avec précision, il semble justement que ce soit la notion même de précision. La précision est d'ailleurs une des qualités d'une bonne définition. Une définition qui s'applique justement à un objet et pas à un autre, qui permet de les distinguer de manière efficace, de manière justement, comme on dit, précise, sans pouvoir les confondre. Et peut-être que l'un des contraires de la précision, c'est la généralisation qui permet toutes les confusion. On n'arrive plus à distinguer une pomme et une poire. Et parfois, c'est très important de distinguer une pomme et une poire, surtout si vous faites un gâteau aux pommes et pas aux poires. Mais la précision est peut-être un enjeu majeur de la vie humaine dans tous les domaines. Et on a raison de se référer à cette phrase célèbre qui ouvre le dernier livre d'Henri Bergson, La pensée et le mouvant, qui est une injonction à la philosophie et peut-être à la vie humaine en général. Ce qui a le plus manqué à la philosophie, dit-il, c'est la précision. Et il ouvre tout le recueil de toute sa pensée dans La pensée et le mouvant par cette exigence qui s'étend peut-être aujourd'hui à tous les domaines, y compris à la politique et à la morale des êtres humains, y compris face aux dangers les plus graves du moment, cette exigence de penser et d'agir avec précision. Mais qu'est-ce donc que la précision ? Il faut quand même la définir un petit peu, comme on vient de le dire, pour être au moins dans le minimum de cohérence et peut-être revenir sur la notion même de définition. Disons qu'on peut appeler précision la qualité de toute pratique humaine qui respecte la singularité de son objet, qui respecte l'objet dans ce qu'il a de singulier. On dit souvent, par exemple, que la vérité est la concordance entre un énoncé linguistique des êtres humains et le monde. Il est vrai qu'il neige au moment où je parle, s'il neige au moment où je parle. C'est une définition traditionnelle de la vérité. Et la fausseté, ce sera de dire il neige alors qu'il ne neige pas, ou il fait nuit alors qu'il ne fait pas nuit. C'est une définition un peu générale de la vérité. Mais la précision est encore plus efficace, car la précision, c'est la concordance précise avec un objet singulier. C'est la concordance de mon énoncé, non pas avec l'objet en général, mais avec l'objet singulier, l'objet qui fait preuve en quelque sorte par sa singularité. Ainsi, il y a aujourd'hui des controverses sur la vérité. Il y a des hommes politiques même qui mettent en doute la notion de vérité, qui jouent avec la notion de vérité. C'est extrêmement dangereux. En revanche, la précision, on ne joue pas avec. La précision fait preuve. Les êtres humains sont convaincus non seulement par la prétention à la vérité en général. Vous pouvez toujours dire « je dis la vérité, je dis la vérité ». Mais les êtres humains sont convaincus si, par exemple, un météorologue prédit avec précision le temps qu'il fera demain à telle heure, si un médecin prédit avec précision la façon dont un tel virus va se développer dans 3 mois, comme cela a été le cas par exemple pendant la pandémie de Covid. Ainsi, la confiance dans la science passe par ce qu'on appelle aussi la précision de ses prédictions. Et on a confiance dans une mécanique, les mécaniques qu'on appelle des mécaniques de précision, si elles atteignent précisément le but qu'il faut, parfois un but de vie et de mort, comme dans des outils chirurgicaux extrêmement précis. Et d'ailleurs, la chirurgie est une image de la précision. Il ne faut pas se tromper d'organe. C'est à des millimètres près. Et la précision comporte des degrés. C'est donc le degré même de la vérité. Le chasseur, le tireur, sait bien qu'il faut viser avec précision pour atteindre la cible mouvante. Ainsi, la précision, peut-être même plus que la vérité, nous relie au réel, nous empêche de nous tromper, au sens aussi de nous mentir, et rétablit la confiance entre les êtres humains.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Chaïma Giboire, Armance Bourquin, Carla Michel et Nassim Melkabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!